cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 juin 1992 à Saint-Jodard.
Petite question. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Est-il un principe métaphysique ou bien est-ce l'explication critique, l'action, pouvant, provenant de la découverte inductive de l'être en acte comme principe et cause finale de ce qui est. Le principe de finalité est découvert à partir de la priorité de l'être en acte sur l'être en puissance. Donc, l'induction me fait découvrir l'être en acte comme principe et fin de tout ce qui est en puissance. Alors, je l'exprime. Vous voyez, il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Mais je pourrais dire, étant donné la priorité de l'être en acte sur l'être en puissance, tout ce qui est en puissance est monté sur l'acte. Alors, est-ce un axiome ou un principe de finalité? Je dis que c'est le principe de finalité au niveau métaphysique. Pourquoi? Parce que le jugement d'existence est présent. Et tout ce qui est en puissance. Là, vous allez me dire, c'est la même chose. Tout devenir, quand on prend, n'est-ce pas, à propos de tout ce qui est mu dépend d'un autre. Je disais que c'est un axiome. Alors, est-ce que tout ce qui est mu dépend d'un autre est un axiome, comme tout ce qui est en puissance, ce qui est mu est en puissance, dépend de ce qui est en acte? Mais l'axiome, c'est au niveau de l'intelligibilité. Le principe implique le jugement d'existence. N'est-ce pas? Et l'axiome est toujours présent dans le principe. Et le principe n'est plus présent dans l'axiome. Ce que dit Aristote lorsqu'il distingue le principe de la cause. Alors, on va faire ça pour qu'on voit bien les deux. Au plan critique, le principe et la cause. Le principe, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. La cause, ce qui est premier aussi dans l'ordre de ce qui est, de ce qui devient. C'est pour ça que la cause implique le jugement d'existence. Tandis que, lorsqu'il s'agit d'intelligibilité, il y a la mise entre parenthèses de ce qui est. Bon. Alors, prenons le parallèle. Tout ce qui est mu vous disais que tout ce qui est plus dépendant d'un autre, que nous retrouvons dans les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, dans saint Thomas, disait qu'il fallait le comprendre d'un point de vue critique et non pas d'un point de vue proprement philosophie de la nature. Venez. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau de l'intelligibilité le point de vue, donc, de ce qui est mu. Ce qui est mu dépend et relatif. Relatif à un autre. Donc, il peut dépendre soit du côté de l'intelligibilité, soit du côté de l'être. On est dans l'ordre du devenir. Et puis l'autre ici. Tout ce qui est en puissance. Vous pourriez dire que c'est une généralisation. Dépend de ce qui est en acte. C'est évidemment que c'est très proche. Alors, est-ce un axiome ? Deux axiomes. L'axiome au niveau du devenir, l'axiome au niveau de l'être. Il est évident que celui-ci, un, dépend de deux. Vous pouvez inverser, dire deux dépend de un. Puisque le devenir est intelligible à partir de l'être, c'est sûr. Alors, pourrait-on dire que nous sommes en présence de deux axiomes? Le point de vue du principe au niveau de l'intelligibilité du devenir, au niveau de l'intelligibilité de l'être. Où sommes-nous en présence de l'explicitation du principe de causalité au niveau de ce qui est ? Je pourrais dire, voyez, ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. La cause. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. L'action. Ce qui est mu dépend d'un autre. L'axiome, tout ce qui est mu dépend d'un autre. Comme ça, on précise. Vous voyez ? C'est ça que c'est toujours intéressant de bien creuser. Et c'est vrai, ce qui est en puissance, ceci en puissance, implique le chemin d'existence. Ce qui est en puissance, donc ceci qui est en puissance, dépend de ce qui est en acte. Et c'est toujours par rapport au jugement d'existence, explicité ou implicite, ou mis entre parenthèses. Alors, dès que vous dites tout, vous n'êtes plus en face de telle réalité. Vous êtes en face de l'intelligibilité propre de cette réalité. Donc c'est un axiome. Vous êtes passé de la cause au principe. Est-ce que vous voyez bien ça ? Il y a des difficultés pour le dire. Oui. Ce qui est ceci en puissance dépend. Ceci en puissance dépend. C'est plus juste. Ceci comprendre ce qu'est un acte.
Et quand on dit tout ce qui...
Tout ce qui est en puissance, vous généralisez. Donc vous n'avez plus le chemin d'existence explicite. Vous regardez l'intelligibilité. Oui, et il faudrait mieux dire tout ce qui est en puissance est relatif. Parce que est relatif, plutôt que dépend, c'est un petit peu une saveur existentielle. Donc si vous voulez préciser, vous direz tout ce qui est ceci en puissance dépend de ce qui est en acte, ou dépend de l'être en acte, dépend d'un être en acte. Oui.
Est-ce que l'action a nécessairement un caractère universel?
Ah oui, l'action toujours. Parce que c'est de l'ordre, c'est un principe d'intelligibilité. Donc il est universel. Oui, comme le principe, c'est pour ça qu'il est principe. Tout, vous voyez, tout principe dans l'ordre de la pure intelligibilité d'un axiome. C'est pour ça qu'Aristote, quand il parle du principe de non-contradiction, dit axiome. Et la raison, dit axiome. C'est un axiome. Vous voyez, quand on dit principe, on ne précise pas. Il faudrait... Ce qui est, vous voyez, on dit d'une façon générale, le principe. C'est très bien. C'est dans ce sens-là qu'on dira dans la très sainte Trinité, l'implication point de vue théologique, dans la très sainte Trinité, le Père est principe. Il n'est pas axiome. C'est pour ça qu'il faut maintenir principe et axiome différents. Oui. Dans la très sainte Trinité, le Père est principe du et ce n'est pas cause du Fils. Et c'est pour ça que je mets relatif et non pas dépend. Je ne dis pas que le Fils dépend du Père. Il est relatif au Père. Vous voyez ? Mais ça a été très peu précisé, ça. C'est pour ça. Enfin, dès qu'on regarde le principe de finalité, on voit que dans la tradition scolastique, la tradition de saint Thomas, on n'a pas précisé du tout, puisque très vite, dès Don Scott, la causalité, le principe de causalité était considéré comme métaphorique. Donc, plus d'action. C'est ça qui est la catastrophe. Sorte que je crois que vous pouvez dire ça, hein. Je dis je crois, parce que c'est toujours très délicat de préciser, mais vous avez raison, bien préciser. L'axiome, tout ce qui est mu, tout ce qui est en puissance. Vous voyez, comme les deux, quand vous les mettez en parallèle, ça aide à comprendre. Puisque être mu, c'est être en puissance. Et être en puissance, c'est pas toujours. Est-ce que être en puissance, c'est toujours être en mu? C'est toujours capable d'être mu, parce qu'il est en puissance. Tout ce qui est mu, ému par un autre, est relatif, était relatif. C'est mieux. Un autre. Non. Ceci en puissance, ou bien tout ce qui est en puissance, relatif. Hein? Ce qui est en acte. Je crois bien que c'est ça qu'on doit dire. Pour bien préciser le principe, bien préciser la cause, le principe et l'axiome. L'axiome, c'est ce qui est premier dans l'ordre de la pure intelligibilité. C'est pour ça qu'on ne peut rien déduire d'un axiome. L'axiome est une condition sine qua non. On ne peut rien déduire. faisant ça par l'induction, je peux immédiatement découvrir le principe de causalité finale. Le principe de causalité finale n'a pas d'autre intelligibilité que la primauté de l'être en acte sur l'être en puissance. Donc c'est bien l'induction métaphysique qui me donne l'intelligence du principe de finalité.
Le principe propre et le principe universel. Enfin, comment
on peut pas passer de l'un à l'autre, hein, faites attention.
Est-ce que le principe universel, il est comme une propriété du principe propre?
Et qu'est-ce que c'est que l'universalisation? C'est principe universel, c'est mettre entre parenthèses l'exister pour ne regarder que l'appréhension. dit relatif. Qui dit conclusion dit relatif. Un jugement relatif à un principe propre de ce qui est en acte. Nécessaire. C'est la conclusion donc d'une démonstration a posteriori qui est scientifique. Ça veut dire qu'il est nécessaire. Mais ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la conclusion d'une démonstration a priori. Tout de suite, je distingue. Descartes a voulu transformer cette conclusion d'une démonstration a posteriori en une démonstration a priori. D'où modo geometrico. Donc, jugement modal, il est nécessaire, qui contraint l'intelligence à l'adhésion. C'est ça que c'est un chemin nécessaire, modal, nécessaire, et qui porte sur l'existé d'un être premier. Et cet être premier, comme il n'y en est pas, l'expérience, je ne connais pas son nom au plan philosophique. Le philosophe emprunte le nom Dieu aux traditions religieuses. Le mot Dieu n'est pas de l'invention des philosophes. Le mot Dieu provient des traditions religieuses. C'est pour ça que je n'aime pas quand on dit démonstration de l'existé de Dieu. Il faut dire démonstration de l'être premier acte pur qu'on appelle, qu'on dit Dieu. Ceci fait appel. Ceci fait appel aux traditions religieuses ou à la révélation. Et surtout aux traditions religieuses. Parce que les traditions religieuses sont plus proches du philosophe que la révélation. Que le philosophe fasse appel aux traditions religieuses, c'est normal. Que le philosophe fasse appel à la révélation en tant que philosophe, c'est anormal. Vous voyez ? Parce que la foi échappe au philosophe. Que le croyant fasse appel à la philosophie, c'est normal. Mais pas que le philosophe fasse appel à la révélation. Et c'est très curieux ça. Et c'est important d'être très très précis quand on parle à quelqu'un qui cherche, bien lui montrer que ce que peut dire l'intelligence humaine et ce qu'elle ne peut pas dire. L'intelligence humaine doit respecter même des choses qu'elle ne comprend pas. Si ces choses qu'elle ne comprend pas sont fondées sur une autorité légitime. Or, les traditions religieuses, c'est une autorité humaine. La révélation, c'est une autorité divine. Les traditions relèvent d'un patrimoine humain. l'unité de ce jugement. Il est relatif à un principe, relatif à une expérience. Donc, il implique quelque chose d'immédiat du côté de l'existence. Et il va faire appel aux traditions religieuses, qui pour les philosophes est une opinion. C'est l'opinion des traditions religieuses. Une opinion plus ou moins valable, suivant que cette tradition religieuse a plus ou moins d'autorité, plus ou moins précise. Alors, le contenu de ce jugement, c'est montrer la nécessité de poser l'existé d'un être premier. C'est de montrer que mon intelligence, si elle reste dans la recherche de la vérité, doit poser nécessairement l'existence d'un être premier. C'est pour ça que c'est un jugement particulièrement grave et particulièrement important. Montrer qu'une intelligence loyale qui cherche la vérité doit, tôt ou tard, si elle n'a pas d'a priori affectif, découvrir la nécessité de poser un être premier. Et cet être premier, l'absolu pour mon intelligence, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Alors, il peut se faire que certains ont un tel aspect critique que les traditions religieuses, pour eux, n'existent pas ou ne signifient rien. Et ça dépend alors d'un a priori affectif, d'un certain scepticisme. Et c'est pour ça que c'est pas si commode que ça par la philosophie, de montrer l'existence de l'être premier. Tandis que la foi, Nota Bene, tandis que la foi surnaturelle me permet de dire tout de suite Dieu existe. Et je le dis dans l'obscurité de la foi, en m'appuyant sur la révélation. Et donc, ces deux affirmations, celle de la foi et celle du philosophe, ne sont pas identiques. Formellement, elles sont distinctes. Ce qui montre bien que la conclusion métaphysique, il est nécessaire qu'il existe un être premier, qu'on appelle Dieu, ne supprime pas la foi, même dans ce domaine. Matériellement, j'aboutis à la même affirmation, au même Dieu, matériellement, formellement, distinct. Puisque d'un côté, j'aboutis à Dieu qui me parle, et de l'autre côté, j'aboutis à Dieu que je découvre. Découvrir Dieu n'est pas la même chose que de recevoir la parole de Dieu. Oui, alors c'est là où Heidegger ne fait pas la distinction. Heidegger dit « Je ne peux affirmer l'existence de Dieu que si Dieu me parle. » La philosophie ne permet pas d'affirmer l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour lui, il n'y a pas d'analyse objective de ce qui est de l'être. L'être est saisi relativement à ma pensée. Si l'être est saisi relativement à ma pensée, cet être que je découvre ne peut pas me conduire à Dieu. Il faut saisir l'être dans son absolu, l'être en acte dans son absolu, pour que ce soit le moyen terme qui me permet de passer à Dieu. Tandis que découvrir l'être en tant qu'il est pensé, penser l'être, c'est découvrir relatif à ma pensée. Or, l'être relatif à la pensée, jamais ne peut me faire découvrir l'être premier. Tout, Heidegger dit, le philosophe, ce qu'il a de plus grand à faire, c'est d'attendre la révélation. C'est beau, tu vois, ça. C'est attendre la révélation de Dieu. Le philosophe n'est ni un incroyant, ni un athée, ni un théiste. Il est celui qui attend. Le bec ouvert. Les mains tendues. Il attend. C'est une intelligence en attente. Ce n'est pas une intelligence qui affirme la nécessité de poser l'être premier. Sincérité, pas de vérité, puisqu'elle est relative à la pensée de Heidegger sur l'être. Donc si elle est relative à la pensée de Heidegger sur l'être, c'est une position de sincérité. Heidegger était sincère quand il disait ça, j'en suis sûr. Il n'était pas vrai. C'est important de saisir ça, parce qu'alors on voit là comment l'ontologisme ne saisit plus la vérité, mais il demeure dans la sincérité. Puisque, en définitive, la vérité, c'est atteindre l'être tel qu'il est, et non pas l'être tel que je le pense. Saisir l'être tel que je le pense, c'est rester dans la sincérité. Tandis que saisir l'être tel qu'il est, ah, je peux atteindre la vérité. Et c'est parce que je saisis l'être tel qu'il est que je peux affirmer qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier que j'appelle Dieu. Alors, la question pour que Fidel Kant. Qu'est-ce que le philosophe a Absolu. Il y a, vous voyez, le SK.